Laudetur Jesus Christus.
Va-t-on vers la fin de l'étranglement économique de la Syrie ? Un pas a été franchi hier par le président américain, guidé par le prince saoudien. Donald Trump annonce la fin des sanctions américaines en Syrie. Dans ce journal, nous irons également en France. Les députés ont 2 semaines pour trancher sur la loi sur la fin de vie. Un sujet qui divise, nous l'entendrons, jusqu'au sein du gouvernement. Un homme de prière, humble, attentif aux hôtes, dont les personnes migrantes, nous continuerons de découvrir qui est Léon XIV à travers 2 témoignages ce matin, 2 Augustins de l'Italie aux États-Unis qui saluent notamment l'engagement social de celui qui est devenu Léon XIV. Et enfin, notre voyage à travers la personnalité du cardinal Prévost nous emmène bien sûr au Pérou. Nous reviendrons sur sa mission sur place à partir de 1984 et comment celle-ci peut alimenter le pontificat à venir.
Radio Vatican, le journal. Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. C'était une des demandes les plus pressantes des églises locales, des ONG et de la population syrienne. Le président américain annonce la levée des sanctions de son pays contre la Syrie. Une annonce surprise hier soir qui suscite sur place une vague d'espoir mais aussi de prudence. Les détails sur cette levée tant attendue des sanctions qui étouffe l'économie syrienne ne sont pas encore connus. Peut-être en saurons-nous plus d'ici quelques heures, Jean-Benoît Arène. Donald Trump doit rencontrer à Riyad, dans le royaume du prince Ben Salman, le nouvel homme fort de la Syrie.
Oui, Marine, et c'est d'abord une victoire diplomatique pour le prince héritier d'Arabie Saoudite qui s'impose comme médiateur, demandant un geste de la part de Donald Trump qui ne s'est pas fait attendre, je vais ordonner l'arrêt des sanctions contre la Syrie pour leur donner une chance de grandeur, a lancé hier le président américain. Hérité du régime d'Al-Assad, les sanctions économiques plombaient la vie des habitants du pays depuis le début de la guerre en 2011, les premières datant même de 1979. Dès son arrivée à la tête de la Syrie en décembre dernier, le président Al-Sharaa a déployé tous ses efforts diplomatiques pour les alléger, voire les supprimer. Les États-Unis avaient d'abord temporisé, inquiets du respect des droits humains et des minorités dans la région, mais l'impulsif président américain n'a pas tardé, s'alignant ainsi sur la position de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou encore du Canada. Toutefois, certaines sanctions, comme le CESA Act de 2020, devront être levées par une loi du Congrès. Les Syriens, eux, ont célébré à coups de feux d'artifice cette annonce. Ils espèrent un quotidien plus facile, des investissements pour reconstruire le pays, comme des routes, des écoles ou encore des hôpitaux.
Merci Jean-Benoît Harel. Et après sa rencontre avec le président syrien, Donald Trump est attendu aux Émirats Arabes Unis. En tout cas, la visite à Riyad s'est transformée en idylle diplomatique et économique. Près de 600 milliards de dollars de contrats ont été signés entre les deux pays. Donald Trump qui espère que l'Arabie Saoudite rejoigne les accords d'Abraham pour la paix dans le Golfe. Or, son déplacement pour les funérailles de François, Riyad est son premier déplacement à l'étranger, comme lors de son premier mandat il y a 8 ans. Et non loin du faste de Riyad, malgré les appels du président américain pour que la guerre à Gaza se termine, le premier ministre israélien annonçait hier, je cite, une intensification de la guerre pour vaincre le Hamas. Au lendemain d'une courte pause dans les bombardements pour la libération d'un otage américain du Hamas, ce matin à l'aube, des bombardements israéliens sur le camp de Jabalia ont tué au moins 29 personnes dans une bande de Gaza totalement assiégée depuis plus de 2 mois. La situation au Proche-Orient évoquée par le président français hier soir à la télévision, Emmanuel Macron qui a par ailleurs annoncé ne pas exclure un référendum pour la loi sur la fin de vie si le texte était bloqué au Parlement. L'Hexagone a entamé 2 semaines de débats sur le projet de loi qui vise à autoriser l'euthanasie. Un vote pour ou contre est prévu le 27 mai, mais le sujet d'un droit à l'aide à mourir pour les malades incurables divise au sein même du gouvernement. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
Les députés français ont prévu de se prononcer d'ici le 27 mai sur le texte qui prévoit la création d'un droit à l'aide à mourir. Ce texte qui vise à autoriser en France l'euthanasie ou le suicide assisté est tellement clivant qu'il suscite plus de 3300 amendements et que les différents partis politiques envisagent de ne pas donner de consignes de vote à leurs élus. Le sujet divise aussi les membres du gouvernement. Le projet est soutenu par le président Emmanuel Macron, par son ministre de la Justice et par sa ministre de la Santé. Hier soir, le président Macron a ainsi déclaré que le projet de loi sur le suicide assisté relève, et je cite, de l'humanité et de la fraternité. Mais François Bayrou, le Premier ministre, est opposé à l'euthanasie, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'insurge contre ce qu'il appelle une rupture anthropologique. Hier soir, le président Macron a indiqué qu'il pourrait soumettre la question de l'euthanasie à un référendum populaire en cas d'enlisement ou de blocage du débat au Parlement. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
Et sur la fin de vie, à noter l'invitation de Monseigneur Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon. Il lançait aux députés avant le début du débat « Ayez le courage d'aller à contre-courant ». Il était surnommé le président le plus pauvre du monde. Pepe Mujica, l'ancien guerriero devenu président de l'Uruguay de 2010 à 2015, est décédé cette nuit. Figure de la gauche latino-américaine, contempteur de la surconsommation, il avait continué de vivre simplement, même en étant président, et avait reversé la quasi-totalité de ses revenus de dirigeant à un programme de logement social. À 89 ans, le guerrier a le droit à son repos, avait-il dit lors d'une de ses dernières interviews. L'Uruguay annonce 3 jours de deuil national. Près de 142 000 personnes ont été expulsées des États-Unis depuis le 20 janvier, jour même de l'investiture de Donald Trump. Des personnes en majorité originaires du Salvador et du Venezuela, envoyées dans une méga prison de haute sécurité au Salvador, contre 6 millions de dollars de Washington. Hier soir, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait part de ses graves préoccupations quant à ces expulsions, au traitement de ces personnes considérées comme des criminels violents, voire des terroristes, sans jamais être passés par la case justice. Les États-Unis sont traditionnellement une terre de brassage multiculturel et d'accueil de migrants. Une réalité qu'a connue de près le nouveau souverain pontife, le père Anthony Pizzo, est prieur provincial des Augustins pour le Midwest, le quart nord-est des États-Unis. Il revient sur l'attention constante de Léo XIV aux exilés.
Il a toujours été très sensible aux questions sociales des personnes à travers les frontières, que ce soit l'ordre des Augustins ou durant la courte période qu'il a vécue à Chicago. Il a toujours manifesté et affiché cette attention aux besoins de ces personnes, à la question de la migration. Comme il a passé la majeure partie de sa vie en Amérique du Sud et provient de Chicago, une ville d'immigrés, il est touché par la détresse des personnes qui traversent la frontière. Il a expérimenté le fait de vivre, de travailler, d'accompagner des personnes d'une autre culture, et particulièrement latino-américaine. Quand on pense au nombre de statuts d'immigrés aux États-Unis en provenance du Mexique et de divers pays d'Amérique du Sud, je crois sincèrement que son expérience dans une nation en développement comme le Pérou l'a sensibilisé à cela et lui permet de lire parfaitement dans les cœurs et les esprits des personnes en migration.
Des propos recueillis par Giada Aquilino. Je suis un fils de Saint-Augustin, un augustinien. On se souvient de ces paroles de Léon XIV alors que le monde entier le découvrait le soir de son élection lors de son premier Urbi et Orbi depuis la loge centrale de la basilique Saint-Pierre. Fidèle à son ordre et à son habitude depuis qu'il vit à Rome, hier il s'est rendu au siège de l'ordre de Saint-Augustin dans la capitale italienne. Ordre qu'il a dirigé comme supérieur général pendant 12 ans. Le souverain pontife a participé à la messe et a déjeuné sur place. Ce matin, le père Augustin Chabi, membre des Augustins, revient sur la personnalité du pape qu'il a côtoyé.
Nous l'avons connu comme un homme de prière, humble, attentif aux autres, très engagé dans la formation des jeunes confrères. Il avait une profonde capacité d'écoute, toujours soucieux de chercher la vérité avec les autres. C'est d'ailleurs l'invitation que Saint-Augustin nous lance. Dans cet esprit d'unité qui est donc au cœur de notre vocation augustinienne, il portait aussi une attention particulière au monastère des moniales augustiniennes qui justement forment le deuxième ordre. Il avait aussi à cœur le troisième ordre des laïcs qui vivent la spiritualité augustinienne. Sa simplicité et sa profondeur évangélique ont toujours frappé ceux qui l'ont côtoyé. On voit qu'il portait une autorité paisible, non, cette manière qui n'est pas écrasante de mettre les personnes à l'aise. Et ensuite, quand je l'ai rencontré personnellement à Rome en tant qu'étudiant, je devais lui présenter un livre que je suis en train d'écrire sur Saint-Augustin. Sa sincérité, son intérêt pour mon travail est resté en moi comme quelque chose que je ne peux jamais oublier.
Une population majoritairement catholique, mais qui subit la pression des églises évangéliques et des sectes. Une société où l'église dénonce une augmentation exponentielle de la violence. Un pays qui cumule les crises politiques et une pauvreté largement répandue. Tel est succinctement le Pérou dans lequel le pape Léon XIV a passé la plus grande partie de sa vie de pasteur. On le décrit proche des gens, des minorités, attentif, on l'entendait, aux situations de détresse. Alors, quelle a été son action missionnaire sur le terrain, également son action sociale? Comment son expérience peut-elle maintenant être mise au service de l'Église universelle? Autant de questions posées ce matin au père Hubert Boulanger-Allègre, prêtre Fidei Donum depuis plus de 30 ans au Pérou. On l'écoute.
C'est considérable ce qu'il a fait. Il a eu l'occasion de travailler dans 4 diocèses différents. D'abord comme prêtre, tout à fait au nord du Pérou, où là, pendant 2 ans, il a fait tout un travail social, mettre en place la Caritas, etc. Quoi. Il a fait des choses tout à fait remarquables. Il a travaillé à Trujillo, il a constitué une nouvelle paroisse. Hein. Il a travaillé, bien entendu, à Chiclayo, où il a succédé à des évêques extrêmement conservateurs, et il a ouvert l'église plutôt sur les champs du service, hein, de la diaconie, si vous voulez, et tout en étant évêque de Chiclayo. Il a été pendant 1 an envoyé par le pape pour régler des problèmes à un diocèse de Callao où il y avait une très très grande fracture entre la société et l'église et c'était très dur. Et il a fait là un travail formidable. Toujours dans le sens du consensus, du dialogue, de l'écoute, même de choses qu'il n'avait pas forcément envie d'entendre.
Quel a été son rapport avec justement les milieux politiques péruviens dans un pays qui aujourd'hui encore compte pas moins de 3 présidents emprisonnés?
Dans ce cas-là et à son niveau, les relations sont toujours complexes parce qu'on ne peut pas s'opposer face à face par rapport à l'État parce qu'on fait un peu partie de cette construction de société, mais il n'a jamais manqué de souligner les erreurs, les impasses, les abus, hein, surtout par rapport aux minorités sociales, par rapport aux minorités ethniques.
Comment son expérience peut-elle être mise au service de l'Église universelle?
Et ce qui est très très intéressant, c'est que son expérience, elle est missionnaire à 100%. Il y a la présence de groupes religieux non catholiques qui s'alimentent des besoins de la société auxquels l'Église catholique a du mal à répondre. Alors il faut maintenir à la fois un dialogue et en même temps une fermeté sur ce qui constitue la catholicité de l'Église. Il y a aussi le rapport de violence, hein, à la fois les violences domestiques, familiales, mais les violences institutionnelles de la société. Une société où il y a des gens très très riches et des gens très très pauvres, c'est une violence en soi. Là, il faut constituer des ponts, éviter les condamnations brutales, mais en même temps, rappeler clairement ce qu'il a très bien rappelé à son premier discours, première minute de son pontificat, la paix, c'est le seul chemin qui nous conduit à la vérité et qui nous conduit à Dieu. Travailler à la paix, c'est travailler à la mission.
Puisque nous sommes en plein jubilé, le jubilé de l'espérance, comment a-t-il été, lui, porteur d'espérance au milieu des siens?
Ah, mais si vous voulez, il a travaillé le fait que l'Église est une Église pauvre. C'est pas seulement que les gens sont pauvres, c'est la pauvreté de l'éducation, la pauvreté de différentes catégories socioprofessionnelles. Il a toujours été dans une église où il a laissé la parole aussi aux minorités existentielles, aux minorités ethniques ou sociales. Et puis une église pascale qui permet des passages dans toutes les aventures de la vie, c'est-à-dire des crises, ça ne manque pas, des violences. Il y a eu comme 20 ans avec le Sentier Lumineux qui a fait près de 80 000 victimes, des souffrances de toutes sortes. Et bien dans toutes ces souffrances, il a toujours eu un langage pascal, c'est-à-dire de faire un passage, que cette souffrance soit non pas une fatalité, mais l'occasion de lancer un pont nouveau, de franchir les affres de la vie avec la perspective d'une vie nouvelle.
Voilà, interrogé par Jean-Charles Puzolu, le père Hubert Boulanger-Allègre, prêtre Fidei Donum au Pérou, était ce matin notre invité. Merci de votre écoute. L'actualité revient en direct de Rome tout à l'heure à 13h. Une très bonne journée à toutes et à tous.